François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur associé à Sciences Po. À Sciences Po d'ailleurs, où vous donnez un cours sur l'histoire des Juifs de France depuis 2000 ans. On va parler avec vous du dîner du CRIF et pour son premier dîner en tant que président, Yonatan Arfi a placé sous le signe du franco-judaïsme son discours, un franco-judaïsme qui est cher à votre cœur.
Tout à fait Pierre, et j'en étais très 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 content, parce que enfin dans un dîner du CRIF, on parle d'abord de la France, d'abord du judaïsme français, avant de parler d'Israël. On a droit de parler d'Israël, mais le CRIF est le conseil représentatif des institutions juives de France. Et d'ailleurs de manière très symbolique, sur le très bel album qui nous a été distribué au dîner du CRIF, où il y avait plus de presque 1000 personnes présentes, il y a une photo de l'Assemblée nationale de la République française et au-dessus, il y a une photographie du décret du 13 novembre 1791 qui reprenait le décret de l'Assemblée nationale du 27 septembre 1791 qui accordait la citoyenneté française aux Juifs du territoire français. Et donc c'était un bon symbole pour rappeler l'ancrage des Juifs depuis 2000 ans dans ce pays et surtout depuis du 27 septembre 1791 où nous sommes citoyens français. Et d'ailleurs, Yonatan Arfi, vous l'avez tout à fait bien fait de le mentionner, dans son discours a eu des mots qui ont résonné en moi, mais aussi chez beaucoup de personnes, et ça a eu beaucoup de succès. Il a dit, par exemple, que dans l'éducation, on a parlé d'éducation, les programmes scolaires, alors je cite Yonatan Arfi, les programmes scolaires n'évoquent aujourd'hui les Juifs qu'à travers les Hébreux et une présentation sommaire du judaïsme, puis l'affaire Dreyfus et la Shoah, c'est-à-dire exclusivement sous l'angle religieux ou victimaire. Le fait juif, bien heureusement, ne se réduit pas à cela. Pourquoi ne pas évoquer la présence juive médiévale, l'importance de la contribution des Juifs à la vie républicaine dès le XIXe siècle, mais aussi la vie juive aujourd'hui, la connaissance du fait juif comme fait culturel positif, désamorcerait, j'en suis certain, bien des préjugés et des représentations. Puis il continue plus loin, la France, la première à accorder aux Juifs l'émancipation, depuis ce 27 septembre 1791 que je viens d'évoquer, et malgré l'affaire Dreyfus et Vichy, les Juifs tissent au quotidien les liens de la fraternité dans la société française. Et là, il a évoqué des amitiés entre des Français non-Juifs et des Français juifs, entre Albert Cohen et Marcel Pagnol, entre Alfred de Musset et Rachel, entre René Goscinny et Albert Uderzo, entre Lévinas et Blanchot, entre Chagall et Malraux, entre Hélène Lazareff et Saint-Exupéry, ou quelque chose de moins connu, entre Albert Camus et André Chouraqui sur le plateau du Chambon-sur-Lignon pendant la rédaction de La Peste par Camus. Chouraqui l'a beaucoup inspiré sur les aspects bibliques. Il a continué avec François Mauriac et Elie Wiesel, Charles Péguy et Bernard Lazare, André et Simone Schwarzbach. Et c'était important, je pense, de rappeler cet ancrage bimillénaire des Juifs en France. Nous ne sommes pas des immigrés de fraîche date, nous ne sommes pas une communauté étrangère à la nation française, nous faisons partie de la nation française depuis 2000 ans, et le franco-judaïsme est aussi admirable que l'ancrage historique dans pas mal de pays d'Europe, comme le judaïsme anglais, ou comme le judaïsme espagnol jusqu'à l'Inquisition, ou comme le judaïsme allemand jusqu'à l'avènement d'Hitler au pouvoir. Et nous, contrairement à différents autres pays d'Europe, le judaïsme français est debout et vivant, et en tant que président du CRIF, il avait tout à fait raison de rappeler ces éléments essentiels de notre histoire.
Et alors, dans sa réponse, Elisabeth Borne a elle aussi utilisé la même thématique. Pourquoi, selon vous ?
Eh bien parce que le discours d'ailleurs du Premier ministre dans le dîner du CRIF est souvent une réponse au président du CRIF. Et dans cette réponse, je pense qu'Elisabeth Borne, qui elle aussi est à la fois une patriote, une républicaine et d'origine juive, comme elle l'a rappelé, elle avait eu d'ailleurs un passage très émouvant au début de son discours où elle a évoqué pour la première fois publiquement la déportation de son père, de ses trois oncles et de son grand-père, déporté en tant que résistant et en tant que juif à Auschwitz-Birkenau, dont seuls son père et son oncle Isaac reviendront. Et bien, elle a tenu à rappeler un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, permettez-moi aussi de lire un peu ce qu'elle a dit. Mesdames et messieurs, chaque année, ce dîner est l'occasion de revenir sur notre histoire, dans sa complexité, dans ses heures glorieuses et dans ses drames, dans ses plages plus ou moins connues. Cette histoire est ancienne. C'est à Rouen, sur la cour du palais de justice, que l'on trouve la maison sublime, sans doute le plus ancien monument juif d'Europe. Elle a tout à fait raison, ça date du XIVe siècle. Et elle continue. Quand on creuse la terre de France, on retrouve les traces du judaïsme. Citoyens à part depuis la Révolution, les Juifs de France ont écrit certaines des grandes pages de notre République. Alors, c'est bien ce qu'elle dit, mais par contre, là, j'ai un peu tiqué, comme pas mal de gens d'ailleurs, mais c'est une faute qui est souvent commise par les politiques et aussi par certains responsables de la communauté juive. C'est que Jonathan Arfi, dans son discours, l'a très bien dit, à chaque fois qu'il parle des Juifs en France, il dit les Francs et les Juifs, ou les Juifs français, parce qu'effectivement, depuis le 27 septembre 1791, nous sommes des Français juifs ou des Juifs français. Nous ne sommes pas des Juifs de France. Les Juifs de France, c'est une définition territoriale, géographique et non nationale. On dit bien The American Jews, the British Jews, les Américains juifs, les Anglais juifs, ben pareil, nous sommes des Français juifs. Donc dans le discours du Premier ministre, elle aurait dû dire des Français juifs et non des Juifs de France. Mais continuons parce que son texte est bien. Au cours des années, des Français de confession juive ont pris pleinement part à notre vie démocratique. Leurs noms sont devenus synonymes de progrès sociaux et de droits nouveaux qui aujourd'hui encore marquent notre pays. Depuis des siècles, ils contribuent aux réflexions philosophiques, à notre culture, à nos grandes découvertes scientifiques et à l'identité même de notre nation. Une part de ce qui nous rassemble et fait de nous des Français a aussi été construit, enrichi, façonné par les Juifs de France. Voilà, elle aurait dû dire les Juifs français, mais c'était quand même formidable qu'elle aussi aborde cet hommage au franco-judaïsme et à cet apport à la nation française.
Alors, justement, pourquoi est-il nécessaire de rappeler l'histoire et la grandeur du franco-judaïsme, ce que vous faites d'ailleurs dans votre excellent roman paru chez Stock il y a deux semaines, Deux étés 44. Pourquoi est-ce si important ?
Alors, tout d'abord, merci de saluer mon roman. Oui, dans mon roman, je raconte une histoire d'une famille française et juive, française patriote et juive du début du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. C'est la mienne d'ailleurs, mais au-delà de ça, je raconte un parcours de patriotisme. Et alors pourquoi c'est important ? Parce que on oublie souvent, et par exemple les Israéliens le connaissent mal, les Américains le connaissent mal, et même les Français, et très souvent, je m'en suis rendu compte, à la fois à travers mes cours, les conférences que j'ai pu donner, les rencontres que j'ai pu avoir, et puis maintenant depuis deux semaines la présentation de mon livre, peu de personnes en France connaissent la profondeur de l'histoire des Juifs en France. Et en racontant cette profondeur de l'histoire, on comprend mieux ce lien très particulier entre la France et les Juifs, et entre les Juifs et la France, et c'est un lien mutuel qui s'enrichit, et qui permet de mieux comprendre, sur temps long, la qualité de notre relation. Par exemple, on parle très souvent de l'Inquisition et de l'expulsion des Juifs d'Espagne 1492, mais on ne raconte pas qu'en 1394, Charles VI, le Fol, a chassé les Juifs du Royaume de France. Alors, ils ont chassé du Royaume de France, mais ils ne sont pas allés très loin. Ils sont allés en Provence, ils sont allés en Alsace, ils sont allés en Lorraine, ils sont allés en Savoie, qui à l'époque n'appartenait pas au Royaume de France. Et raconter cette histoire-là, c'est aussi avoir un autre éclairage. Je vais vous donner juste une anecdote pour conclure. Et c'est une question que je pose souvent, c'est quel est le premier souverain français qui a nommé un ambassadeur juif ? Et à quelle époque ? Alors, beaucoup de gens me disent, oh, un ambassadeur juif, oh, 20e siècle, oh, peut-être fin 19e.
Non, il faudrait remonter pratiquement au Moyen-Âge, même avant.
Ah, bravo, bonne réponse Pierre, bravo. C'est en 797, Charlemagne, qui était très philosémite, qui avait un médecin juif, qui avait des conseillers juifs à sa cour, avait besoin de négocier une trêve avec Rachid al-Haroud, calife de Bagdad. Et en 1797, pour aller négocier une trêve à Bagdad, ben, il n'allait pas prendre des chevaliers qui parlaient avec un patois arriéré, un peu de latin, mais surtout pas d'arabe, pour aller négocier avec un calife à Bagdad. Et donc, il demande à Narbonne de lui envoyer leur juif le plus savant et leur plus brillant. Et il leur envoie Isaac le juif de Narbonne. C'est comme ça que l'histoire a retenu son nom, Isaac le juif de Narbonne. Et Isaac le juif de Narbonne part en 797 pour Bagdad. Alors, il connaît les routes pour y aller. Il y a des comptoirs juifs tout le long de la Méditerranée, donc évidemment, Charlemagne lui adjoint deux chevaliers qui meurent en route, et Isaac le Juif arrive à Bagdad, il négocie avec Rachid al-Haroud, il obtient la trêve, et Rachid al-Haroud, en échange de cette trêve et en hommage à l'empereur Charlemagne, donne à Isaac le Juif un éléphant blanc que celui-ci doit ramener à Aix-la-Chapelle. Et Isaac le Juif ramène à Charlemagne cet éléphant blanc, il met 3 ans pour revenir, arriver à Aix-la-Chapelle, et ça a fait la joie de la cour de Charlemagne pendant 8 ans. Et au bout de 8 ans, le pauvre éléphant blanc, il meurt de froid avec sa chapelle. Mais vous voyez, au 8e siècle, il y a même un ambassadeur juif qui représentait l'empereur de France. Et ça marque l'ancrage de notre communauté dans la nation.
Très belle histoire. Merci François Heilbronn d'avoir été avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes professeur associé à Sciences Po et que vous êtes également l'auteur de ce roman paru chez Stock, Deux étés 44. Merci, bonsoir.
Bonsoir Pierre.